Bonjour et bienvenue à PackPod, votre clubhouse pour ce 6 nations. Moi c'est TK, ancien joueur de foot américain, mais aussi j'ai joué au rugby avec Charlie Bayer. Bonjour Charlie.
Salut TK, ouais, j'ai eu la chance de partager, de courir sur le pré avec toi, de gambader dans nos grandes vitesses d'avant.
Et ça cavalait, ça allait vite hein, à l'époque.
Comparé à maintenant, oui, mais dans l'absolu.
Ouais, un peu plus vite que maintenant, c'est sûr. Donc le 7-3e voix, c'est Théodore de Saint-Rémy, le personne qui a envie de le plus jouer au rugby quand même, parce qu'il a joué au Racing, il a joué à Puck, il a joué un peu partout.
Le mercenaire au grand cœur.
Le mercenaire au cœur ovale, ouais.
Oui, du Racing, du Puck, du Rugby Club Orléans, de la CBB, tout ça avec une seule passion, la balle ovale. Salut à tous.
Écoutez les gars, on a plein de choses à se dire cette semaine, on a 6 nations, on a tous les matchs de 6 nations, aussi nous sommes très contents d'avoir un petit rubrique sur le côté 15 de France féminine aussi, donc restez avec nous pour tout ça, et à l'attaque les gars.
Allez go, pas de temps à perdre.
Pack de potes, terrain 10.
Pour ce match France-Italie, bon, c'était plutôt un très bon début, avec 3 points marqués dans les 3 premières minutes, suivi par un essai de Teddy Thomas grâce à un coup de pied de Ntamack. Donc on avait marqué environ 8 points en 8 minutes. La France était vraiment sur les bonnes rails, un autre essai par le capitaine Olivon. La France était vraiment en force, sauf il y avait quelques coups de pied ratés, il y avait quelques plaquages ratés aussi. L'Italie revient dans le score avec un essai fait par un Italien qui est un peu déguisé comme footeur, avec plein de tatouages et un coupe de cheveux un peu douteux. 13-10 pour la France. La France revient dans le score avec un magnifique passe sauté de Dupont vers Aldrit pour un essai juste avant la mi-temps, 23-10.
Vraiment magnifique, là je te rejoins.
Magnifique. Début de deuxième mi-temps, un passage à vide pendant presque 20 minutes où nous avons subi. Quand même, on a pu marquer à 58 minutes avec un joli course de M. Ntamack pour marquer un très très bel essai. Par la suite, beaucoup trop de pénalités. On laisse marquer les Italiens sur notre poteau avant que Baptiste Serin mit la calme dans ce jeu avec un superbe essai individuel. Les Italiens, ils font un petit essai de réponse aux dernières minutes. Score final 35-22.
Ouais, bah, déjà, moi je trouve que rien que dans ton résumé, il y a le bon et le moins bon qui transparaît, à savoir des très belles individualités qui font des jolis coups d'éclat et des gros problèmes on a fait trop de fautes. Rien que dans ton petit résumé comme ça, ça en ressort et c'était le cas quand on regardait le match. Après, c'est quand même satisfaisant ce qui s'est passé. On a fait une très bonne entame de matchs. Il y a eu des petits passages à vide. Comme on avait prédit de toute façon la semaine dernière, on avait dit nos cousins, on leur donne des petits points. Les pauvres Italiens, ils étaient rentrés fanny la semaine dernière. Bon bah là, on les a aidés un peu quoi. On a aidé les cousins. Moi juste, il y avait un petit point que je voulais dire. C'était un petit clin d'œil à mes copains du Massif. Les enfants qui ont accompagné nos joueurs et les joueurs adverses aussi pour chanter les hymnes, c'était des petits de mon club, l'USOMC. Voilà, donc un petit coucou aux bénévoles qui les ont accompagnés. Ouais, c'était cool. Et on a remarqué que ceux qui étaient avec les Italiens faisaient un peu plus la gueule que ceux qui étaient avec les Français. Mais bon.
C'est pas rien ce que tu dis, Charlie. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle tradition. Et pour les écoles de rugby, entrer au Stade de France, mon fils était avec l'école de rugby de notre coin là, également dans les tribunes, lui, et c'est vrai qu'ils vivent des choses assez incroyables en voyant de près là, tous les joueurs, et je trouve que c'est absolument génial de voir ça, donc tant mieux si le Massif Central a été dans les petits papiers pour donner la main, mais peut-être tu me donneras les billes pour que mon fiston la prochaine fois soit sur le pré, quoi.
Maintenant que la priorité a été faite à nos petits, à nos gamins, parce que ça nous a donné l'occasion de hurler dans le bar où on était, genre c'est mon gamin, on était contents.
C'est marrant Théo, parce que mon fils aussi il était à ce match, et donc moi j'habite un peu plus loin de Paris quand même, donc il est revenu vers 2h du mat, mais il était aux anges d'avoir visité pour la première fois pour lui ce stade de France et d'assister à un match France-Italie. C'était une très belle occasion.
Après sur le match, bon, moi je trouve que effectivement le score est acquis, c'est ce que dit le capitaine à la fin, voilà, comptablement on a fait le boulot, bon d'accord, c'est vrai. Maintenant on savait que nous on n'est pas des Britanniques, on va le répéter à chaque fois, on laisse toujours prendre des points aux petites équipes.
Cadeau.
Là, c'était un peu trop cadeau quand même, c'était un peu opération portes ouvertes à certains moments, et on a alterné le très bon, parce qu'on ne peut pas dire le contraire, on a vu des superbes actions, et le improbable, voilà, notamment en défense, on s'est quand même fait bouger et en mêlée, et un petit peu...
Se faire bouger par les Italiens en mêlée,
ouais, et un petit peu chahuter en touche quand même. Les montées défensives, je suis désolé de le dire, de Teddy Thomas, je suis désolé parce que c'est un garçon que j'aime bien et en plus, il marque un essai qui est vraiment plein de talent, le premier essai. Il fait le geste juste dans un timing. Certes, c'est bien tapé par Ntamack, mais il faut être au bon endroit et faire le geste juste pour attraper, aplatir. Il le fait très bien. Mais sur le premier essai italien, voilà, sa montée défensive, là, c'est plus une montée en pointe, c'est une montée en couille. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est.
Une montée en couille.
Il part 15 mètres, je sais pas, il part 30 mètres devant. En plus, il rebique complètement à l'intérieur. Quand tu regardes l'essai, mais attends, il y a 2 contre 0 sur 20 mètres de large sur l'aile, quoi. Je ne sais même pas où il est. Donc là, on voyait un peu Sean Edwards, le grand Manitou de la défense
Ouais.
mondiale, qui est maintenant au chevet de la défense du 15 de France. Là, c'est mal de tête assuré. Il faisait la tronche pendant tout le match, mais je sais pourquoi. Donc là, moi, je suis toujours un petit peu estomaqué de voir des joueurs de ce niveau faire des erreurs aussi grossières. Voilà, aussi grossières. De même qu'il nous fait vers la 20e, 21e, une relance qui m'a rappelé sa relance fatale de la finale de Coupe d'Europe avec le Racing, où il flingue à lui tout seul le titre européen de son club. Voilà, c'est-à-dire, je suis 1 contre 3. Mais je vais faire une relance et je vais perdre le ballon. Voilà. Donc, il nous fait la même. Ballon perdu, je ne sais plus s'il y a essai derrière ou pénalité ou je ne sais pas quoi. Mais c'est indigne de joueur de ce niveau. Et donc, il alterne trop le très bon et le très mauvais.
On a vu aussi Ntamack qui n'était pas forcément dans ses pattes, on peut dire, pattes au niveau de coup de pied, parce qu'il avait même un coup de pied qui a touché, c'était le poteau-poteau entrant.
Poteau-poteau rentrant, je pense que statistiquement, c'était sans doute la première en match international.
Bah surtout juste après une transversale
Ouais, mais je pense
sortante.
que à sa décharge, le vent était quand même très compliqué.
Ah, il a marqué tout le week-end, hein, la
C'est
tempête,
vrai
quand même.
que ça a été difficile pour lui de marquer, et c'est vrai que ça pèse sur le match parce que au lieu de faire 7 plus 3 plus 7, tu fais 5 plus 0 plus 5, et c'est pas du tout la même chose pour la confiance. Et on sait bien qu'il est capable de faire mieux, puisque à la Coupe du Monde, notamment contre les Argentins, en début de Coupe du Monde, il avait fait des matchs à 100%
Comme la
qui
semaine
avaient eu
dernière.
un gros impact sur le mental de ses partenaires. Et là-dessus, il n'a que 20 ans, faut pas l'oublier. Il faut qu'il progresse. Il n'a que 20 ans, les gars.
Ouais, c'est
20 ans.
incroyable.
Voilà.
C'est
C'est
incroyable.
vrai qu'il y a tous ces points négatifs que tu as vus. Hein. Bon, clairement, la touche, je pense que Karim Ghezal aura du boulot, hein, parce contre les Anglais, déjà, c'était compliqué. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire en touche. Se faire bouger en mêlée par les Italiens, on en a gros. Et les fautes, quoi, qui n'étaient pas possibles. Mais puisque tu parlais de Ntamack, parce que dans les points positifs, donc il y avait cette charnière avec en plus un double neuf. Parce que l'entrée de Serein était magique. D'ailleurs, c'est un autre point positif par rapport au week-end dernier, c'est que cette fois-ci, les remplaçants ont été à la hauteur, je trouve. Et quand t'as bah, un des meilleurs neufs du moment qui sort et qui arrive, Serein, bah, qui nous fait un petit coup de pied joué vite, qui remonte de 70 mètres avec un coup de pied à suivre, qui aplatit. Et j'ai adoré la gueule qu'il a fait juste après avoir aplati. C'était genre, voilà quoi, bah, j'attendais ça à mon pote depuis 2 semaines et boum, ça sort. C'était vraiment très chouette. Voilà, je pense que c'est quand même. Notre charnière est formidable. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Théo, mais.
Bah, on a plus que deux neufs, Charlie. On a deux charnières de très haut niveau. Et je pense que là, on est hyper gâté sur le
Oui.
plan de la génération. Ça fait un petit moment qu'on dit nos U20, ils sont double tenants du titre, des championnats du monde des moins de 20 ans, etc. Il est incontestable que là, on a une génération dorée. Voilà, c'est vrai que quand tu vois Dupont, Ntamack et derrière Serein, Jalibert, bon, bah, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont tous super bons. Tous super bons, vraiment. Dupont, il nous refait le coup du petit côté fermé où il se le fait encore à moitié tout seul avant l'essai qui est marqué.
Ça passe aussi pour Aldrit, là, dont tu avais parlé,
Et
non?
ça passe, qui passe quasiment du milieu du terrain au bord de touche. C'est une passe vissée de 35 mètres.
Ça paraît
Bon, un match
simple, hein.
international, c'est toujours sympa, quoi. Donc, on a une génération là-dessus qui est magnifique. Et c'est de très bon augure parce que tout simplement, on le voit sur l'entrée de Serein et l'entrée de Jalibert après, les mecs qui ne sont pas les prétendus titulaires du poste, quand ils rentrent, ils sont morts de faim. Et comme ils sont de très grands talents, ils sont bons quand même. Donc c'est en plus des joueurs d'impact. C'est génial. Et
C'est de la vraie concurrence positive, ouais,
ouais, que dans les années qui viennent, on ait ces quatre joueurs-là qui se tirent la bourre, plus quand même derrière. Couillou, qui est quand même pas manchot, qui peut rentrer, etc., et qui seront aussi morts de faim. Le petit Carbonel à Toulon, qui est même pas là, mais qui est très bon aussi. Donc, Ouais, là, il y a abondance de biens, problème de riches, là, pour les sélectionneurs. Et puis moi, sur ce match-là, je voudrais aussi faire un tout petit peu amende honorable. Ouais, j'étais pas très fan de Willem C sur le papier. Là, j'ai trouvé qu'il fait un très beau match.
Ah oui, bah ouais, non.
J'ai trouvé à la fois costaud et mobile. Il fait en plus une très belle passe après contact.
Il fait une entame
Et
de
puis,
dingo.
petite cerise sur le gâteau. Bon, peut-être que c'est un peu bricolé, tous ces trucs-là, mais tu le vois à la fin du match,
Ah,
nettoyer le vestiaire avec la petite
alors,
raclette.
ouais.
Bon, allez, maintenant, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est du storytelling, mais en tout cas, j'aime bien.
À ce propos du parce que en fait la semaine dernière on a eu la même photo avec Ntamack et du coup tu as un peu l'impression que c'est alors à ce propos il y a Oval Masqué sur Twitter qui lance le Ballet Challenge en hommage à France Rugby et qui invite tout le monde avec le hashtag Ballet Challenge à envoyer sa petite photo de toi qui nettoie les vestiaires pour participer à cet élan.
Mais est-ce qu'on pourrait nous nettoyer les vestiaires du pack de potes? C'est une vraie question.
Je
Et
crois
il faut peut-être qu'on
qu'il y
s'interroge sur ce
aurait
truc.
trop de boulot.
Ouais, c'est une bonne idée. Je trouvais que bon, l'équipe de France, si on regarde vraiment les avants, étaient vraiment en forme, la première ligne très bien, les 4-5 superbes,
La
les
troisième ligne.
le 6-7-8 formidable aussi. Donc on a vraiment quand même vu un équipe en forme. En fait, il y avait aussi certaines personnes sur l'équipe d'Italie qui m'a quand même marqué. Donc notre ami Jordan Hayward, le gagnant du premier gagnant de Rugbarbe, il a fait un très très bon
Ouais.
match.
Il a fait un très
Ah,
bon
j'ai
match.
pensé à vous aussi.
Il avait deux passes décisives. En fait, au basket, on dit ça, un assist, ça veut dire c'est la dernière passe avant que quelqu'un marque. Est-ce qu'on a cette statistique en rugby?
On n'appelle pas ça comme ça, mais dans l'esprit, oui. Et en l'occurrence, là, il mérite tout à fait d'être cité pour ça, parce que c'est un joueur qui trouve ses partenaires. Oui, moi j'ai beaucoup aimé certains joueurs italiens, les deux ailiers que j'ai trouvés bons. Le troisième ligné, Paul Edri, qui a beaucoup porté le ballon, qui a vraiment gagné du terrain et qui a eu un impact physique important. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de noter quand même que côté français, on avait deux ex-Sudaf, les deux deuxièmes lignes. Ça fait un
Ouais,
peu
c'est
mal
vrai.
pour notre fonction,
Dur,
Charlie.
dur.
Mais le fait est qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs de deuxième ligne éligibles sous le maillot bleu, ce sont des Sudaf d'origine. Mais côté italien, on avait un numéro 8 appelé Stein. Je rappelle que toutes les équipes ont un Sudaf.
Ouais. Qui s'appelle Stein d'ailleurs.
Oui, toutes les équipes ont un Stein qui est
Et presque toutes les équipes ont un
sud-off.
Stein.
J'avais noté aussi, bah, Jordan Hayward, on l'aime bien pour sa barbe, mais en fait, il y avait aussi un bon barbu, le numéro 4 d'Italie, avec un nom super italien, Dean Budd. Donc franchement, il n'y a pas plus italien que ça.
Ouais, Dean Butt, ça doit être un néo-zen, ça.
C'est du sud de l'Italie, quoi.
Sud, sud, extrême sud.
Ouais.
Le talon, le
C'est
talon.
la seule personne qui finit pas en i, en
Et
fait.
alors, moi j'ai quand même un petit mot à faire sur un événement parallèle. Mais ce week-end, c'était quand même la rentrée de Mathieu Bastareau sous le maillot des Free Jacks à New York.
C'est pas les Free Jacks. Les Free Jacks, c'est New England. C'est le New York Rugby Union, il me semble.
Ah.
Et comme on l'a dit, il a fait son entrée à pas appuyer parce que il doit être à 150 kilos.
Concernant Mathieu Bastareau, il y a des photos qui circulent donc de son premier match sur les terres américaines. Manifestement, il n'a pas oublié la case McDo quand même en passant là-bas, parce qu'il est gras comme un loukoum. Alors moi, j'aime beaucoup Mathieu Bastareau, mais j'ai vu sur Twitter des mecs qui disent on l'adore, on le bade, mais là, non. Voilà. Et effectivement, il y a quand
C'est
même un
ça.
gros problème là de fit, parce que c'est juste pas possible les photos qu'il y a. Il a une cantoche comme
Ouais, là
jamais.
c'est.
Je suis pas surpris qu'ils aient perdu et je suis un peu désolé pour lui qui commence dans cet état-là son parcours américain.
Je comprends aussi parce qu'en fait aux États-Unis, bon, le nourriture c'est bon, c'est pas cher et on peut grossir très très vite.
Je peux pas, j'ai pas de potes.
Bah, les gars, c'était assez marrant parce qu'en regardant ce match, quand j'ai vu le score final 35 à 22, quand même, avec un dernier essai dans les 80 minutes pour les Italiens, en fait, la France a bien gagné ce match si on regarde. Aux États-Unis, par exemple, si on gagne par ce score-là 35 à 22, bah, forcément, la meilleure équipe a gagné, il n'y a rien à dire. Mais je trouve que dans le rugby, et peut-être c'est le rugby français, il faut pas juste gagner, mais il faut gagner bien, il faut gagner beau, il faut que ça soit joli. Vous êtes d'accord?
C'est pas tellement gagner joli, c'est gagner sans faiblesse. Et ça, pour moi, c'est issu du monde britannique. Je suis désolé de le dire parce que c'est toujours un peu ça. Mais les Britanniques qui ont quand même vraiment mis leurs pattes sur ce sport, puisque aujourd'hui, à part l'équipe de France, il y a quand même peu d'équipes non britanniques quelque part, même si les Sudaf, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont vraiment britanniques, qui sont dans les premières équipes mondiales.
Non Commonwealth.
Ouais, non Commonwealth. Ils aiment impliquer, appliquer, imprimer une domination. Et cette domination, elle doit être de bout en bout. Voilà. Et donc, nous, je pense qu'on est quand même un petit peu infusé par cette culture qui est de dire « Ouais, on a gagné, mais comme on n'a pas gagné en étant intraitable, c'est discutable. »
Ouais, je mettrais une petite nuance, c'est-à-dire que je pense que ça dépend aussi de l'adversaire, parce que en vrai, gagner de justesse contre, j'en sais rien, les Blacks, les Anglais, à la dernière minute, tu vas chercher la petite pénalité, ou le drop, allez, rêvons, le drop qui va te faire passer un point devant, mais c'est une toute petite victoire, mais elle peut rester très longtemps dans les mémoires et faire bien, et procurer pas mal de plaisir. Après, c'est juste que contre l'Italie, après le match qu'on a fait la semaine dernière, ouais, on s'attendait à une maîtrise plus continue, plus diffuse.
Je te rejoins, dominer notamment ceux qui sont réputés plus faibles. Voilà. Et là, c'est vrai que quand c'est présumé à peu près équivalent, bah, si on gagne même un peu à l'arrache, on va s'en contenter. Mais quand c'est réputé plus faible, il y a une forme d'intransigeance pour ces victoires un petit peu en dents de scie, voilà, où on a des temps morts et puis après des expressions de talent avec de la facilité, ce qui a quand même été le cas. L'essai d'Entamac qui se fait un peu tout seul, l'essai de Serin qui se fait un peu tout seul aussi. Mm. Voilà, ça compte pas vraiment parce que c'est presque trop talentueux et pas assez clinique. Ouais, c'est un peu ça.
Bon, en parlant d'autres matchs, on a aussi eu un match de l'Angleterre-Écosse sous la pluie. Charlie ?
De l'avis de beaucoup d'observateurs, c'était un des pires matchs qui nous a été donné de voir. Alors les pauvres, évidemment que ni Écossais ni Anglais n'est devenu nul d'une semaine à l'autre. Mais c'est vrai que dans de telles conditions, il y avait des murs de flotte qui tombaient, il y avait un vent pas possible, c'était impossible, il y a eu plein de maladresses. Plein de d'erreurs d'en avant. En première mi-temps, les Anglais jouaient contre le vent. Quand ils tapaient des ballons à suivre, ils se retrouvaient derrière eux, le ballon, quelquefois. Donc, c'était évidemment pas les meilleures conditions pour envoyer du beau jeu. Et ça explique un petit peu un 3 partout à la mi-temps qui était un peu dégueulasse, quoi.
Et même 3 partout quasiment à la 70e, si je ne m'abuse, ou à la 68e. C'est hallucinant. C'est
exact, absolument. Ouais, mais c'est ça.
Mais tu vois, Charlie, moi, là-dessus... Alors, c'est vrai que ce match était, on va dire, moche. C'est pas un match qu'il faut présenter aux fonds d'investissement qui veulent investir dans le tournoi Destination. Mais je peux pas m'empêcher, moi, en tant que joueur, et je pense que tous les gens qui nous écoutent et qui ont, comme j'aime à dire joliment, mis leur cul sur un terrain de rugby, quand toute cette large communauté de joueurs de rugby, quels qu'ils soient, regarde ce genre de match, on ne peut pas s'empêcher de bien aimer ça quand même. Parce qu'on a tous joué sous la flotte, dans des conditions improbables, où tu gagnes avec un score un peu pourri à la fin, mais tu sors de là, tu t'es viandé avec tes potes.
Oui, c'est vrai.
Télé ou pas télé, six nations ou pas six nations, c'est aussi du rugby de jouer en plein air avec des murs de flotte et des trucs qui ne sont pas beaux, mais qui sont du rugby parce que tu es à fond dedans. Et sur l'engagement, ils n'ont pas triché, ni les uns ni les autres.
Alors,
c'est vrai que c'était moche.
C'est vrai. Non, là-dessus, je te rejoins tout à fait parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas meilleure sensation que tu ne te sens pas plus vivant que quand tu fais un match, quand tu dois courir, sauter, pousser.
C'est exactement ça.
Sous une trompe d'eau, tu as l'impression d'être un mérovingien, un viking ou un truc. Enfin, c'est très. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Hein. Moi, j'adore. En tout cas, j'adore. Mais regardez, c'était un peu. En effet, hein, ça s'est envoyé. Après, il y a eu un peu. Les Écossais, t'as un peu de la peine pour eux. Parce que, comme la semaine dernière contre les Irlandais, ils ont joué, ils ont insisté. Mais ils se prenaient des murs. Donc, pour le coup, pas des murs de flotte, des murs de.
C'est des matchs qui se vivent plus qu'ils ne pense, se regardent, incontestablement. Voilà.
C'est joliment dit. Mais je suis d'accord avec toi, Charlie. Tu te sens mal un peu pour ces pauvres Écossais. L'erreur de
Hogg.
Stuart Hogg, c'est un joueur que j'adore depuis plusieurs années parce que c'est vraiment un des joueurs les plus talentueux du monde, de la scène européenne en particulier, mais du monde qui a porté cette équipe écossaise quand même sur les progrès qu'elle a fait depuis les 5-6 dernières années. Et là, il enchaîne une boulette invraisemblable la semaine dernière en lâchant un ballon dans l'embut. Là, l'essai n'est pas accordé aux Anglais hein, sur l'espèce de faux aplatissement qu'il fait dans l'embut. Mais honnêtement, moi, je suis l'arbitre, je l'accorde aux Anglais, même si l'essai est moche.
Ouais.
Donc là-dessus, Stuart Hogg, c'est deux matchs importants d'affilée, deux cagades sur sa ligne d'embut adverse ou la sienne. Est-ce qu'il va s'en remettre? Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce sport. Est-ce que Stuart Haug va sortir d'ici la fin de la compétition le gros match qui fait que c'est quand même un champion et que c'est pour ça qu'on l'aime et qu'il a été creusé un peu au fond de la mine, il était au fond du sac et il va s'en ressortir, récupérer son rayon de soleil. J'espère. Donc regardons Stuart Haug d'ici la fin de la compétition et on va voir s'il a encore une âme de compétiteur ou s'il est au fond du seau. C'est vachement intéressant.
C'est vrai, il a encore été d'ailleurs défendu par son coach. Moi, je pense que...
T'es obligé de défendre un joueur comme ça, quand t'as un joueur comme ça dans ton
équipe. Bien sûr, je pense qu'il va encore nous surprendre. Mais aussi, de manière générale, cette équipe d'Écosse, elle m'a un peu fait de la peine parce que c'est eux qui avaient choisi le choix du terrain. Ils ont choisi de jouer le vent dans le dos. Ils s'en sont pas vraiment servis en première mi-temps. C'était très bizarre. Et je sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais ils sont revenus deuxième mi-temps pleine balle. Ils ont vraiment envoyé du jeu. Ils ont vraiment montré un autre visage en début de deuxième mi-temps et pour la même efficacité qu'en première mi-temps, voire que contre l'Irlande la semaine dernière. Donc c'est un peu peinant quoi, de les voir buter comme ça.
Un peu peinant. Alors je rappelle quand même qu'il leur manque aujourd'hui Finn Russell qui a...
on en sait plus, pareil.
On en sait un peu plus. Et moi, j'aime bien cette petite polémique puisque Finn Russell est juste écarté de l'équipe nationale parce qu'il a bu des canons pendant le stage. De l'équipe nationale.
Il a bu un canon de trop, paraît-il.
Un canon de trop, trop tard, trop ceci, trop cela. Voilà, moi, ça me rappelle un peu le rugby des années 90, où à l'époque, on avait le droit. Là, il n'a pas le droit. Il s'est fait gauler par Tonsen, qui lui dit « Arrête de me prendre pour une truffe ». Lui dit « C'est bon, j'ai le niveau, tu ne peux pas te passer de moi ». L'autre lui dit « Bah si, je peux me passer de toi ». Tout ça sous fond de pintes de Guinness supplémentaires. Honnêtement, c'est un petit conflit qui me déplaît
pas. Je voulais juste quand même rappeler, il y a eu un autre petit fait de match, à part le Hog, là, mais en tant qu'avant, en tant qu'on a un pilier parmi nous, on a quand même bien rigolé autour de la 40e parce qu'on a le pilier Sutherland, le numéro 1 de l'équipe d'Écosse, qui nous a fait un petit truc. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je pense qu'elle doit tourner, quoi, mais il a fait une petite feinte de héron. Il s'est extrait d'un ruck et il a fait une course, mais avec une grâce. C'était assez incroyable. Évidemment, il n'est pas allé au bout, mais dit-on que c'était dû au terrain gras qui accrochait un peu les crampons. Mais en tout cas, voilà quoi. Belle petite. On voit que les piliers rêvent d'être des neufs ou des ailiers, en fait. On l'a senti là-dedans dans cette course.
Bah, c'est sûr. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un 6.
C'est ça.
C'est la fin du héron, j'aime bien. Je pense qu'effectivement, on peut garder cette expression.
En parlant de piliers, il y avait aussi un peu de jolie presse pour le pilier anglais cette semaine, Marler.
Ah oui, absolument.
Super histoire.
Ouais, déjà le début, c'est-à-dire il sort quand même en se faisant siffler du Stade de France. Il s'enquiert auprès des coachs français de qui était ce petit vis-à-vis curieux qu'il ne connaissait pas. On parle d'Awas pour le coup, qu'il ne connaissait pas et qui lui a donné bien des soucis. Une fois renseigné, il va dans les vestiaires pour lui offrir une bière et lui offrir son maillot surtout. Et quand Awas veut lui donner le sien en échange, il lui dit surtout garde-le bien, c'est ton premier maillot, tu le donnes à personne. Et c'était très classe, je trouve.
Bon, ça fait rêver. Voilà, c'est encore des histoires de rugby, franchement. Il a beau avoir une tronche insupportable, une crête improbable, tout ce qu'on veut.
Ouais, elle me plaît, sa crête.
Ouais, toi, je sais que tu as toujours un goût pour les stratégies capillaires dissidentes. Mais franchement, Marler, ça reste un mec que nous, on déteste parce qu'on est français, mais qu'on aurait rêvé d'avoir comme partenaire. Mais
bien tout sûr, qu'on aime détester.
Voilà, on aime détester ces mecs-là. Et là, on voit que c'est un mec qui a un gros cœur et surtout qui a le sens de la fraternité des joueurs de première ligne et tous ceux qui ont joué avec des gros ou qui sont des gros, je ne vise personne, vraiment ne peuvent qu'apprécier ces gestes-là, tout simplement. Et c'est vrai que ça anticipe un peu sur peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils auront fini leur carrière, on les voit bien se retrouver avec des souvenirs tout simplement fraternels. Et c'est peut-être avec ces gestes-là qu'on installe aussi cette fraternité. Donc, c'est top.
Ah, complètement. Bah, la première ligne est une race à part hein, dans le rugby, de toute façon. Et ils ont une fraternité exacerbée.
Je vous invite aussi de lire ce qu'il avait dit après le crunch. Il avait vraiment des belles choses à dire par rapport à cette équipe de France, dont c'était écrit dans l'équipe, et je trouvais ça rudement bien. Il faut que je suis un peu plus ce monsieur, parce que je trouve qu'en fait, il a beaucoup de personnalité, et c'est très sympa.
Tiquet, un nouveau chouchou.
Ouais, ça devient un chouchou. Ouais. Et franchement, il était toujours avec des cheveux ou des barbes, donc c'est bien. on reste fidèle à nos choix.
Alors Thierry, ce week-end, il y avait aussi du vert contre du rouge, de l'irlandais contre du gallois. Est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a plu?
Vraiment, oui, j'ai bien adoré ce match. Donc, Irlande, j'ai trouvé plutôt en forme après leur victoire difficile contre l'Écosse la semaine dernière. Le Pays de Galles, peut-être fatigué, peut-être ils ont marqué trop d'essais contre l'Italie, parce que je trouvais qu'ils avaient plus de jambes ce week-end. C'est Irlande qui a ouvert le score, donc un gros travail avec les avants, mais finalement, c'est l'ailier qui marque l'armure.
En français, on dit l'armure.
Ouais, ok. Et finalement, c'est l'ailier qui marque l'armure, qui a eu un très bon match. 10 minutes plus tard, quand même, il y a Pays de Galles qui revient dans le score avec un joli pass de notre ami numéro 4, Alwyn Jones, avec un joli pass pour Bigard, qui passe vers le 9, Williams, qui marque.
C'est à noter quand même, hein, ces deuxièmes lignes, je fais une petite parenthèse. Ouais. Willem C contre les Italiens, Alan Wynne Jones contre les Irlandais. Qui sont des gros gabarits, des joueurs infatigables en défense, dans la lutte des rucks, etc. Et qui se sont vraiment mis à niveau sur ce qu'exige maintenant le rugby de mouvement et arriver à passer les bras, faire jouer dans l'intervalle, c'est-à-dire ne plus avoir que des épaules, des bras et puis les yeux fermés, on déquille tout ce qui bouge, mais aussi ouvrir les yeux, écarter son champ de vision. C'est ce qu'on demande toujours aux gamins à l'école de rugby, de jouer aussi avec leurs yeux, avec leur tête. Là, c'est des exemples vraiment magnifiques de grands gabarits qui ne sont pas faits pour ça et qui, hop, passent les bras, font jouer derrière. Là, c'est un très, très bel exemple. Et c'est vrai que sur cet essai, après, enfin, tu peux le regarder en boucle quand tu aimes le rugby. C'est magnifique.
Ah, c'est vraiment des troisième lignes supplémentaires, quoi, et un peu plus épaisses.
Ouais, c'est exactement ça. Ils ont vraiment fait évoluer leur jeu.
Pour continuer avec le match, il y avait Furlong d'Irlande, le pilier, qui a vraiment fait son impression d'un bulldozer, qui a marqué un essai mais énorme.
Furlong, il y va, il rentre dans le tas.
Ensuite, un essai un peu mitigé, en grosse maul qui finit dans le but pour l'Irlande, et après, l'arbitre français qui dit « I have no idea », j'ai aucune idée si c'est bon ou pas. Bon, bref, ça compte.
Je note que celui qui marque à ce moment-là officiellement est un Sudaf, hein, qui s'appelle Vander Flyer, mais je dis ça, je dis rien.
Bale Gale qui essaie de revenir dans le match avec une très jolie course d'un monsieur Pax, mais qui malheureusement fait un hog et il perd le balle juste en essayant d'aplatir le balle en tombant dans mon but. 74e minute, un essai de bonus de Conway. Vraiment, Irlande a le match en main. Finalement, un essai de l'honneur pour le Pays de Galles, par Tipperick, le personne je trouvais le plus en forme sur le côté Pays de Galles. 24-14, Irlande qui a gagné assez facilement, je dirais.
Ouais, ça reste des matchs très très engagés. Et moi, j'aime toujours regarder ces matchs-là parce que c'est des matchs sans concession. Voilà, je trouve qu'il y a très peu de temps faible. De temps en temps, on a des équipes qui subissent un petit peu, mais l'impression que j'ai par rapport, par exemple, aux Français contre les Italiens, c'est que là, les Gallois, même s'ils ont été dominés, même s'ils ont perdu, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient eu de trou d'air comme on a parfois, nous, les Français, où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Et puis, paf, essai. J'ai pas cette impression. Ils subissent la pression, ils reculent, ils subissent et ils cèdent. Mais ils cèdent vraiment après avoir plié pendant longtemps. C'est l'impression que j'ai. Et c'est ce que je trouve qu'ils ont de supérieur par rapport à notre investissement dans des matchs parfois où on n'a pas ce talent-là de tenir aussi longtemps que possible. Voilà, on va plus agir par fulgurance. Et pourtant, effectivement, le score se ressemble à la fin.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça lâche plus tôt. Mais moi, j'ai trouvé, comme tu dis, hein, pour moi, c'était. Alors, c'est pas de la vantardise ou c'est pas attirer la couverture à ce que l'on connaît, mais je trouvais que c'était vraiment ce que j'appelle un match d'avant, quoi.
C'est vrai.
Ça s'engageait sévère et ça allait vraiment. Ça allait vraiment gratter les ballons de partout et tout. Juste, moi, j'ai une petite pensée pour Romain Poit, qui a dû faire des cauchemars d'entendre Sexton venir lui parler, lui courir après.
Qui est vraiment une taille.
Il a dû se réveiller en sueur avec Sexton qui lui courait après, qui lui demandait des explications sur les règles ou qu'il avait tort et tout. Il a été insupportable tout le match, quoi. C'était incroyable. Voilà, donc petite pensée pour notre arbitre français, quoi, le pauvre. Il a dû en faire des cauchemars.
Les Français s'en sortent, hein. C'était un Français aussi, c'était Gahuzer, ouais, sur le match Angleterre-Écosse. Bon, lui, il a pris son quota de flotte. Hein,
J'avais écouté un podcast sur The Wales Rugby, donc du Pays de Galles, et en fait, ils avaient un peu de mal en fait à comprendre l'arbitre avec un accent français. C'était assez marrant.
Ouais, il m'a beaucoup fait marrer son accent.
Moi, j'aime bien leurs accents bien français. Ça doit te plaire, Thierry, quand tu les écoutes. Hein.
Bon, moi, j'ai un accent aussi, hein, donc je peux rien dire.
Par contre, moi, j'ai appris un mot parce que c'est très facile à comprendre avec leur accent français. C'est le grounding. C'est donc cette notion de l'aplatissement du ballon. On voudrait savoir s'il est propre,
ah oui, bien sur
plat,
le, ouais.
bien maîtrisé. Et les deux, hein, Gauzer comme Romain Poit, parlent du grounding of the ball. Et je trouve ça assez marrant de regarder ces ralentis de grounding, même si le grounding, en effet, de l'essai irlandais de la 40, je ne sais pas combien, là, on ne l'a pas du tout vu, mais il a donné l'essai quand même. Enfin, ouais. on a rien compris.
Bah, c'est marrant, j'ai trouvé que les annonceurs français, là, ils aimaient bien le nom Ryan. Et ils n'arrêtaient pas de dire Ryan. En fait, au lieu de Kevin et Steve et tout ça, je pense que des Français, des jeunes, des petits Français, ils devraient s'appeler Ryan maintenant, en fait. Bon, les gars, on a aussi d'autres matchs. On a eu les Français U20 qui a joué contre l'Italie. Charlie ?
Ouais, alors c'était un peu... ça a été dur pour eux, hein, nos U20. Ils ont vraiment, vraiment raté leur entame de match, en fait. Disons comme ça, ils ont... Je pense que eux, le cadeau aux cousins, ils l'ont un peu trop bien fait, ils l'ont un peu trop nourri. Donc voilà quoi, l'Italie fait une super entame. Ce qui était un peu le truc difficile, c'est à la 70e, on était encore mené quoi devant les Italiens, on était à 17-19. C'est le petit pied dans le tapis, je pense pour nos U20 qui ont fait des erreurs vraiment bêtes. Il y a eu un essai italien qui part en ballon porté. Et c'était des enfants quoi, à côté, c'était assez incroyable. Il n'y avait personne qui allait. Les Italiens se sont baladés jusqu'à notre en but. Il y a eu des petites errances qu'on espère qui vont être vite.
Ça veut peut-être dire que ces U20 italiens qui ont battu les Gallois au premier match,
ah oui,
sont
oui.
pas dégueulasses. Espérons que ce soit la relève du rugby italien. Et moi, je serais content qu'ils aient une équipe qui commence à être un peu compétitive.
Nous sommes très contents d'avoir une rubrique sur l'équipe féminine de rugby cette année. Nous allons entendre tout de suite Charlie avec Alban Borel.
Oui, je suis ravi d'être là pour parler de rugby féminin, un peu enfin, du 15 de France féminin, et ravi aussi d'être avec Alban.
Salut Charlie, merci de m'accueillir dans cette nouvelle rubrique.
Ben, on est ravi d'avoir quelqu'un qui pourra mieux parler de rugby féminin que nous. Comment t'es venu au rugby, toi ?
Écoute, un petit peu par hasard, j'ai commencé en universitaire à l'ESSEC, et puis j'ai décidé de continuer après. Donc ça fait une dizaine d'années que je pratique le rugby, et je suis joueuse actuelle du Stade Français.
Premier, ok, quel poste ?
Premier centre.
Premier centre, formidable. Ah, une trois quarts. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on va vite passer à un petit récapitulatif de ce match contre l'Italie. Après une semi-déconvenue contre l'Angleterre, comment s'est passé ce match contre l'Italie ? Alors, on a relevé la tête ?
Alors, effectivement, on a un petit peu relevé la tête. Tu as raison, Charlie, de le dire comme ça, parce que le match contre l'Angleterre a été assez décevant, je pense, pour les joueuses et puis pour les spectateurs aussi, évidemment. C'est jamais agréable de perdre contre l'Angleterre. Et pour le match contre l'Italie, elles ont bien su rebondir, j'ai trouvé. On est quand même sur un score final de 45-10, donc c'est une grosse victoire, avec une première période que j'ai trouvée très maîtrisée, avec beaucoup de rythme, beaucoup de maîtrise dans les phases de jeu. Il y a un premier essai à la troisième minute, avec Forlani qui s'échappe du ruck, c'est un peu sa combinaison spéciale. Après, il y a deux essais en bout de ligne de Banet. Notamment un très bel essai personnel.
À la demi-heure de jeu, c'est le...
Ouais, à la demi-heure de jeu, effectivement, où elle traverse le terrain. Voilà, après, les Italiennes reviennent un tout petit peu juste avant la mi-temps avec un essai sur interception, mais ça n'a pas mis les Françaises trop en danger, j'ai trouvé. Le risque, c'était de revenir en deuxième mi-temps avec un peu plus de légèreté, et justement, elles ne sont pas tombées dans ce piège-là, j'ai trouvé. On repart sur une deuxième mi-temps qui est forcément un peu moins rythmée, mais... Qui se termine par deux essais en fin de match. On est sur un 21-0 en fin de deuxième mi-temps. Donc, c'est un beau match, bien complet. Et je pense que les Françaises ont réussi à redonner envie à tous leurs supporters et à remettre le plaisir au cœur de leur jeu, on va dire.
D'accord, on a repris le bon sens de la marche. Quoi.
Exactement.
Et du coup, est-ce qu'il y a des joueuses... Alors moi, il y en a une qui m'a beaucoup plu. Hein. Bon, en tant que deuxième ligne, je regarde beaucoup les numéros 4 et 5, hein, évidemment. Et il y a un bel essai de la 5 qui fait un essai quasi de 9, en fait, au sortir du ruck. On pense que la demi-mêlée va la sortir. Et elle nous fait un petit plongeon de renard. Quoi. Vraiment un essai de 9. J'ai beaucoup aimé, c'est mon petit focus. Toi, il y a une joueuse, toi, qui est sortie du lot pour toi,
hein, Ouais, moi je trouve que t'as raison pour revenir sur Forlani, c'est vraiment une joueuse qui, je t'avoue que moi en tant que trois quarts, je regarde plutôt les trois quarts, c'est vraiment quand on a chacun nos domaines, mais elle a fait un travail énorme sur le collectif. C'est un peu grâce à elle qu'on marque le premier essai de Banet en bout de ligne, d'ailleurs, parce qu'elle fait un gros travail dans le ruck. Moi, la joueuse qui m'a vraiment marquée, c'est Julie Hanry, qui, j'ai trouvé, était très précieuse dans le jeu au sol. Elle a été excellente en balle en main, à toujours venir chercher le soutien main-main. Elle a vraiment fait avancer la ligne. Elle a franchi beaucoup de fois la défense italienne. Donc, vraiment, c'est une joueuse que j'apprécie. Et je ne dis pas ça parce qu'elle joue au stade français.
C'est une collègue.
Mais voilà, c'est une collègue. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle pour l'instant. Mais bon, je trouve qu'elle mérite son titre de joueuse du match. De femme du match, pardon, sur cette rencontre.
Ah bon, on dit, c'est femme du match, c'est pas joueuse du match ? D'accord.
On dit les deux. Hein.
Okay. Ah oui, je voulais te demander, parce que je voulais faire une petite dédicace aux avants, quand même, moi, de ouais. Stars de France, qui était beau. Mais chez nous, on dit les gros. Genre, voilà, les gros, ils ont bien joué. Je suppose que ce serait malheureux, un peu maladroit, de transposer au féminin cette expression. Du rugby.
Non, absolument pas.
Ah, non, ça se dit ?
Non, on dit les gros, c'est ça.
Ah bah parfait, bon bah très bien. Je l'utiliserai alors avec ton accord maintenant. Et maintenant que j'ai ce petit point de vocabulaire établi, on peut regarder un peu devant et voir le prochain match à venir dans 2 semaines contre le Pays de Galles. Il s'annonce comment ? Est-ce que c'est un match qui, comme pour les collègues masculins, est plutôt à craindre ?
Donc selon moi, le Pays de Galles, c'est pas forcément une équipe à craindre autant que l'Angleterre ou que l'Italie qui a pu nous jouer des tours sur des matchs précédents. Elles perdent leurs deux premiers matchs, donc 15 à 19 contre l'Italie, puis 31 à 12 contre l'Irlande. Donc je pense que c'est une équipe de deuxième catégorie. En revanche, il ne faut pas qu'on tombe dans des travers de non-maîtrise, on va dire, de notre jeu et de la possession de balles qui nous a beaucoup coûté contre l'Angleterre. Donc je pense qu'en déroulant avec du jeu aussi simple que contre l'Italie, je pense que les Françaises ont moyen d'aller faire une belle victoire au Pays de Galles.
D'accord, donc éviter de garder la leçon de l'Angleterre, éviter les mêmes erreurs, et y a un coup à jouer, quoi.
Exactement.
Bah formidable, bon, on va regarder ça avec attention. On espère que, comme tu le pressens, ce sera une deuxième victoire pour notre 15 de France féminine.
Effectivement, je pense qu'il y a vraiment la place pour se rassurer et continuer cette belle lancée qu'on a commencée contre l'Italie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match.
Eh bien, espérons-le. En tout cas, Alban, c'était un plaisir de t'avoir pour parler de rugby féminin un peu avec, comme on dit, quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Merci pour ton expertise. Et on se retrouve dans 2 semaines, alors, du coup, pour débriefer ce France-Galles.
Yes, avec grand plaisir. J'ai hâte de débriefer de ce match avec toi.
Ok, merci Charlie pour cette rubrique.
Eh bien écoute, Tiquet, c'était un plaisir pour moi. On va avoir ce petit rendez-vous après chaque match du tournoi pour savoir un peu comment se comportent nos féminines.
Parfait. Ok les gars, on a quand même des matchs la semaine prochaine. Donc le match où j'espère qu'il y a au moins une équipe qui gagne, c'est Italie contre l'Écosse.
Ouais, c'est ce qui est un peu devenu le match de la cuillère de bois, non ? Les Italiens m'ont fait de la peine, même si on a été un peu trop généreux avec eux. Les Écossais, comme je l'ai dit, pour moi, ils essayent, il y a beaucoup de bonne volonté, mais ils butent à chaque fois sur des bonnes défenses. On va mettre une petite pièce sur les Écossais, ça me ferait plaisir d'aller voir gagner en plus.
J'aimerais bien les voir marquer dans leur 22. J'ai l'impression qu'ils jouent très bien, mais dès qu'ils arrivent à
c'est incroyable. Dès qu'ils sont dans les 22,
ils ont du mal.
Allez, espérons une belle performance de Stuart Hogg.
Voilà, oui. on le souhaite.
Le match du rachat.
Ensuite, nous avons un match qui va être super intéressant, donc l'Angleterre-Irlande.
C'est le clash, c'est ça. En plus, on est sur un périmètre politique en ce moment un peu compliqué entre les Anglais et les Irlandais, le Brexit, le machin, le Sinn Féin qui fait l'arbitre des élections là-bas. Donc tout est réuni pour qu'il y ait une grosse tension sur ce match et on voit deux équipes, l'une qui sera peut-être prétendante à la victoire au Grand Chelem, les Irlandais. S'ils battent les Anglais, ils savent qu'après, ils n'auront plus qu'à aller se taper les Français gentiment le 14 mars, ce qui ne sera pas chose facile, bien entendu, mais ils ont ce chemin vers le Grand Chelem possible. Et toujours cette hostilité héréditaire vis-à-vis du voisin anglais. Donc, c'est toujours des matchs absolument à voir où il y aura de l'intensité, probablement du suspense et puis un beau vainqueur à la fin certainement.
Ouais, je pense surtout beaucoup d'intensité parce que les Irlandais mine de rien ont eu deux matchs pas faciles. Je pense que c'est ceux qui ont cumulé au cumul des matchs, c'est ceux qui ont eu les victoires les plus durs à aller chercher. Les Anglais, ils ont bon, bah, le match contre l'Écosse, c'était un peu les dieux de la pluie étaient avec eux. Il y avait pas grand-chose. Et contre la France, ils ont trébuché, donc ils ont beaucoup de choses à se prouver. Et ça reste l'équipe qui nous a quand même fait pas mal vibrer il y a quelques mois. Donc ils ont beaucoup à prouver sur ce tournoi. Et j'espère que ce match-là sera l'occasion pour eux de se réveiller.
Et puis voilà, il y aura au Millennium Stadium toujours un grand rendez-vous pour les Français qui ont la chance d'être soit spectateurs, soit sur la pelouse. Moi, je redis à ceux qui nous écoutent, si vous avez allez, un match à cocher en priorité, il faut aller voir un Pays de Galles-France ou un Pays de Galles-Angleterre, il faut aller au Millennium, il faut passer 2 jours à Cardiff. C'est une ville qui vibre, qui respire pour le rugby, c'est un poumon du rugby, c'est absolument, absolument magique. Voilà, donc j'espère qu'on aura un gros match. Il sera certainement disputé parce que voilà, les Gallois ont pris là une petite fessée quand même face aux Irlandais. Là, ils vont être de retour chez eux. Ça va être aussi quand même la revanche du quart de finale qu'ils ont gagné de manière relativement discutable avec ce coup de coude, ce carton rouge, tout ce machin qui a un petit peu tué la sportivité de ce match. Donc là, voilà, on remet les compteurs à zéro, on voit qui c'est le taulier. Il faut pas oublier que les Gallois sont les tenants du titre. Donc perdre chez eux contre des Français en plein renouveau, ce serait quand même un signal. Donc ça va être sympa.
Moi, je pense qu'il y a aussi la revanche du Six Nations de l'année dernière où nous on menait largement et c'est eux qui sont revenus pour gagner la match à la fin. C'était
16-0 à la mi-temps pour perdre à
on
la
était
fin.
on était aux anges. Mais cette équipe de France quand même, ça fait rêver. Donc j'espère que ça fait rêver de mi-temps pour être capable de gagner ce match.
Ouais, après, comme vous l'avez dit, il y a plein de bons leviers de motivation pour cette équipe de France, hein, que ce soit tout au long de l'année écoulée. Après, le Millennium, c'est toujours beau à voir. Par contre, juste ce week-end, on m'a donné un petit conseil par rapport à ce que tu dis là sur le fait d'aller voir des matchs au Millennium ou en Écosse, à Murrayfield ou quoi. On m'a dit que c'est vachement mieux quand même d'aller voir des Irlande-Écosse ou des Irlande-Pays de Galles parce que les Celtes aiment vachement mieux les Français quand ils jouent pas contre eux.
C'est
Voilà.
clair.
Donc on est mieux accueillis quand on vient voir un match en touriste.
Moi, j'ai eu la chance de voir l'année justement où j'étais au bataillon de Joinville et on avait été jouer contre des équipes écossaises. J'avais vu Écosse-Irlande à Murrayfield. C'est un souvenir extraordinaire et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que c'est pas le match auquel on pense en premier pour aller se faire un déplacement européen. Mais ça peut être extrêmement sympa aussi de voir des matchs entre Britanniques sur leur propre stade. C'est extrêmement sympa.
Théo, je pense que tu voulais nous parler du sport français de ce week-end qui n'est pas de rugby.
Oui, alors voilà, on parle beaucoup de rugby, mais c'est vrai que on aime quand même le sport en général, les compétiteurs et les belles histoires. Alors là, on a 2 histoires ce week-end, 2 statues qui se sont écroulées. Une grande statue en kimono, Teddy Riner, invaincu depuis 10 ans, ce qui est complètement incroyable. Il faut
Incroyable.
mesurer ce que c'est que d'être
Hors du
invaincu sur un
commun.
tatami depuis 10 ans. Si vous avez des copains judoka, si vous savez même à tout niveau de la compétition à quel point ce sport est dur et exigeant et noble, il y a tout dans ce sport et être invaincu pendant 10 ans sur la scène internationale, c'est irréel. Alors, il a malheureusement là perdu sur le tournoi de Paris sur un contre. Bon, moi j'ai vu le petit bout de combat là-dessus qui n'a rien d'impressionnant. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça envoie un signal que il est humain et que l'immensité de ses exploits est tout à fait extraordinaire. Et ça le remet en ordre de marche pour aller chercher son 3e titre olympique à Tokyo, puisqu'en plus il a perdu contre un Japonais. Donc moi j'ai juste envie de dire, Teddy, on y croit, t'es le taulier, tu vas montrer à tout le monde à Tokyo que c'est toi le chef. Et puis un autre petit record quand même qui n'était pas des moindres, hein, record du saut à la perche 6,16 m qui était tenu par Renaud Lavillenie, un Auvergnat qui avait été dérobé son record à, excusez du peu, Sergueï Boubka. Et ben, on a un gamin de 20 ans qui s'appelle Armand Duplantis, qui a passé 6,17 m en indoor, qui a tout pour passer 6,20 m ou 6,25 m quasiment, parce qu'il a une grande facilité. C'est un garçon qui a un record du 100 mètres à 10,54, donc il joue tout sur la vitesse, qui est exceptionnel à voir sauter. Et je suis juste un peu déçu parce que le mec s'appelle Armand Duplantis et il est suédois.
Et il est moi, suédois,
je suis dépité. Je me dis que c'est fourbe, que c'est moche. Et de venir nous piquer le record avec un nom français, c'est dégueulasse. Armand, voilà, je te félicite et je te bade, mais franchement, tu m'as flingué mon dimanche.
Ouais, mais surtout que ce qui est dur, c'est que Lavilledi, il avait quand même réussi à faire tomber un record qui avait duré super longtemps et le sien, il a duré à peine 6 ans. Donc, c'est un peu dur. Et pour Teddy Riner.
C'est beau quand même. Oui. C'est beau quand même. C'est une confrérie, les perchistes. D'ailleurs, il a été lui rendre hommage, le saluer, lui donner une sorte de passage de témoin en disant maintenant, c'est ton record, c'est magnifique. Voilà, c'est un peu comme les décathloniens quand ils font en fin de JO, tout le monde se saute dans les bras. C'est des confréries, il y a quelque chose de proche avec le rugby dans ces disciplines-là qui sont tellement exigeantes que ça crée une espèce de fraternité entre les perchistes. Et voilà, c'est chouette. Bon, allez, quelque part, on se fait piquer le report par un Suédois, mais il ne s'appelle pas Bjorn machin, il s'appelle Armand Duplantis. Bon, allez. C'est j'aimerais bien d'ailleurs comprendre d'où ça vient ce nom. On essaiera de trouver.
C'est l'énigme.
Pardon, ça me fait bien rigoler.
Je savais que ça te plairait, Thierry.
Et t'es là, tu dis, mais non, tu peux pas piquer mon nom.
Non, mais tu piques tout, putain.
Tu vas faire quoi après? Tu vas faire du vin
C'est ça, c'est ça. Bientôt, il va faire du Cabernet Sauvignon à Malmö, putain, mais non.
Bon, une chose, c'est sûr, c'est qu'on a plein de belles rugby à voir. Donc, revenez la semaine prochaine pour faire un point sur tout ça. Nous sommes, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à faire un petit commentaire sur Instagram, Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas. Faire votre petite subscription, votre like sur votre plateforme de podcast préférée. Partagez ce podcast, s'il vous plaît. Vous étiez plus de 1000 personnes qui ont écouté ce dernier épisode. Donc, merci à vous. Merci à vous. On est en train de grandir tout petit, mais sûrement, sûrement. Donc, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là avec nous. Dans les semaines à venir, donc après chaque match de l'équipe de France, nous allons avoir un épisode. Il y aura aussi des épisodes bonus, donc notamment la semaine prochaine. Vous allez entendre un épisode bonus sur le tournoi de Sevens qui s'est passé la semaine dernière à La Défense, le Super Sevens. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, les gars, bonne semaine à vous.
Allez, tiens, les copains, passez une bonne semaine. Bon ballet challenge à tout le monde.
Oui, le ballet challenge, c'est donc peut-être l'objectif de la semaine. Allez, on vous embrasse à tous, comme disent les mecs du Sud-Ouest. On vous embrasse à tous.
Allez, ciao, ciao.